Le jeudi 9 octobre 2025, la ville de Dijon a rendu hommage à Robert Badinter. Une journée ponctuée de lectures de discours et d'inauguration de la place du Palais Robert Badinter, située 8 rue du Palais à Dijon. Nous vous proposons d'entendre des lectures qui ont accompagné et ponctué cette journée, des mots notamment lus par des élèves du lycée Charles de Gaulle de Dijon.
Un avocat brillant déjà, qui a eu beaucoup de plaidoiries, et puis un humaniste qui a défendu cette abolition de la peine de mort dans une période où c'était assez compliqué, puisque la population n'était pas une majorité favorable, mais surtout un grand humaniste. C'est derrière moi, ici même, en 1979, qu'il a permis, comme je l'ai dit, d'enlever Jean Portet, qui était condamné à la peine de mort, et qu'il a pu, par sa plaidoirie, que cette personne ne soit pas condamnée à la peine de mort.
Je me souviens très bien de cette venue en prison pour la première fois à l'âge de 23 ans. C'est au printemps 1951. J'avais de la prison une idée littéraire. Et tout était si différent de ce que j'avais imaginé, non pas que ce fût une sorte de camp où régnait ostensiblement la violence, pas du tout. C'était, comment dire, un lieu extraordinairement bruyant. Ce fut ma première surprise. Les portes claquaient, cela résonnait beaucoup et tout le temps. Les nuits en prison ne sont pas du tout les nuits de silence qu'on imagine. Vous entendez des cris et cela continue de résonner de tous les côtés.
Thank you. René Croisel.
Ernest Denker-Berkoff.
Voilà, donc les deux garçons du lycée Charles de Gaulle, je crois, vont intervenir officiellement tout à l'heure, plus tard. Il y aura des discours après un passage devant le palais de justice où sera renommée la place avec le nom de M. Badinter. Alors, pour quelle raison êtes-vous là et pour quelle raison ce soir tenez-vous à parler ?
Eh ben moi, l'abolition de la peine de mort, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je me suis déjà intéressé au discours, par exemple, de M. Badinter à l'Assemblée nationale, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc c'est là que j'ai découvert le personnage et voilà, il me tient à cœur. Et donc quand notre professeur nous a parlé de cette cérémonie, j'ai tenu à y assister. Et ensuite, je me suis porté volontaire pour parler un petit peu.
Alors, vous parlez évidemment en tant que citoyen, mais c'est aussi par rapport à des études que vous voulez faire, du droit par exemple ?
Non, pas forcément, juste en tant que citoyen.
Et vous ?
Il me semble que c'est un honneur de faire cela pour Robert de Badinter. Et surtout pour sa commémoration justement, pas pour des études prochaines, sans but, avec intérêt. Mais vraiment pour son entrée au Panthéon, pour les actes qu'il a fait pour la France et donc qu'il mérite d'être enterré là-bas. Donc pas physiquement enterré.
Mais... Qu'est-ce que vous retenez comme acte important pour lequel ce monsieur a amené une très forte contribution ?
Donc justement, la dépénalisation de la peine de mort, qu'il a beaucoup argumenté. Déjà, par exemple, en reprenant les arguments de Victor Hugo. Et je pense que ça devrait être étudié dans toutes les classes et qu'on est peu d'élèves, en tout cas, à connaître cela et qu'on devrait être plus.
Excusez-moi.
Donc là, on était en train de parler, quand nous avons été interrompus, des actes posés par M. Badinter qui font qu'il va entrer au Panthéon.
Voilà, donc la dépénalisation de la peine de mort. Et donc sa fonction de garde des Sceaux, qui a été mémorable pour la France et qui l'est jusqu'à aujourd'hui. Et... C'est un fait qui n'est pas changeable, qui est inscrit dans notre Constitution et qui ne peut pas être changé par les personnes voulant la réinstituer. Ce qui est important, car dans la France actuelle, beaucoup de gens voudraient remettre la peine de mort en place. Et donc c'est important qu'on fasse la commémoration de Robert Badinter pour que justement cela ne se reproduise pas et qu'on reste dans une France qui ne fait pas honte à l'humanité. Je cite Robert Badinter.
Je crois que c'est aussi votre point de vue.
Oui, tout à fait.
Alors, je crois qu'il y a aussi d'autres événements importants. Il a notamment dépénalisé l'homosexualité qui était inscrit au code pénal. Donc depuis la loi, je crois, alors sous réserve de 1982, les personnes qui ont une sexualité liée à l'homosexualité ne sont plus du tout répréhensibles dans notre pays. Donc ça, c'est un acquis de M. Badinter, par exemple.
Oui, bah c'est hyper important pour la République que chacun puisse choisir son orientation sexuelle. C'est un grand homme, on pourrait dire.
Je crois aussi qu'il était très sensible à la question des prisons, à l'humanisation des prisons. Je crois que c'est un autre thème, je ne sais pas qui veut en parler.
Oui, bah moi, la partie de mon discours portera sur ça, justement, sur sa lutte pour l'amélioration des conditions au milieu carcéral. Voilà.
N'hésitez pas à en dire quelques mots.
Moi je saurais pas trop dire.
Vous allez dire quoi dans votre discours ?
Dans le discours, moi j'introduis plus le discours que ma camarade va prononcer ensuite. Donc je vais pas dire grand chose, je vais pas m'approprier ça.
Effectivement, on n'a pas été beaucoup informé et on n'a pas vraiment été stimulé pour faire la recherche. On a été averti de ce discours très tardivement, aujourd'hui ou hier. Donc pour les gens qui n'avaient pas déjà la culture générale nécessaire ou qui ne se sont pas informés, c'est difficile de parler de ce sujet. Mais donc pour la prison, justement, le thème de la prison, c'est très lié avec la peine de mort, justement parce que la prison, les détenus sont vraiment maltraités et c'est là justement... où Claude Gueux, l'histoire décrite par Victor Hugo, lit les deux, la peine de mort et les conditions en prison qui touchent justement aux droits fondamentaux qui ne sont pas respectés par certaines institutions carcérales.
Je me suis retrouvé à la prison de la santé dans la nuit pour l'exécution. Quand je suis sorti à l'aube, bouleversé par ce que j'avais vu, j'ai longé les hauts murs de l'établissement et je me disais, ce n'est pas possible, jamais plus. Tant que je pourrai, je combattrai la peine de mort. Une justice qui tue, ce n'est pas la justice. Ce n'était jusque-là qu'une opinion. C'est devenu une conviction. Une conviction militante. Je me suis juré que je défendrais tous ceux qui pouvaient encourir la peine de mort et me le demanderaient. C'est comme cela que tout a commencé cette nuit-là. J'ai délibérément substitué au procès de Patrick Henry le procès de la peine de mort. C'est là que s'est joué le sort de l'abolition. Puisque tous les Français souhaitaient sa condamnation, il ne fallait pas s'obstiner à plaider son dossier. Je savais que seul le pouvoir des mots, le pauvre pouvoir des mots, pouvait encore le sauver. Il ne fallait pas que ce soit un avocat qui parle, mais un homme qui plaide, le visage à nu, devant d'autres êtres humains. De fait, je suis devenu l'avocat du dernier recours. Chaque fois que des faits criminels avaient entraîné une condamnation à mort et que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt pour vice de forme, j'étais l'avocat de la dernière chance. 5 fois de suite, dans ces années-là, j'ai défendu des condamnés à mort qui avaient commis des crimes atroces. Et 5 fois de suite, j'ai réussi à sauver leur tête. Toujours selon le même principe. Pas de rhétorique. Placer les jurés devant leurs responsabilités personnelles. Je suis devenu le symbole du combat pour l'abolition et j'ai pu mesurer la haine qu'elle suscitait. Les lettres promettant ma famille aux pires tortures, ce furent des années intenses. Disons-le, il y a un lien singulier, historique, entre la guillotine et l'inconscient des Français. Si les Français aimaient autant la littérature qu'ils se plaisent à le dire, ils auraient aboli, après avoir lu Hugo et Camus.
À l'occasion du 30e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, M. Robert Badinter a accepté de me rencontrer, chez lui, alors que j'étais toute jeune avocate. Ce matin d'octobre 2011, je prenais le train avec mes confrères dijonnais. Le cœur battant, la gorge serrée, me répétant inlassablement les questions que je voulais poser à cet homme que j'admirais tant. Un doux mélange de stress intense et d'excitation fébrile. Dans le secret feutré de son bureau, je me lançais et lui posais la question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Monsieur Badinter, comment le combat contre la peine de mort est devenu le combat de votre vie? Le regard fixe et impénétrable, il me répondait froidement. Je préférerais que vous vous absteniez de ces questions-là. Tout ce qui est personnel, ça me gêne. Je ne suis pas enclin à parler de choses très profondes. On n'a pas avec la mort des rapports aisés. Je n'oublierai jamais le poids de son regard, la dureté de ses mots et la sévérité de ses traits. Je dois bien vous l'avouer, aujourd'hui, j'ai été complètement désarçonnée, abasourdie par cette réponse si cinglante, mais ô combien percutante. Ce jour-là, je pensais avoir commis une maladresse. Avec le recul, j'ai compris que ma question avait touché juste et que si Robert Badinter avait été si vif, c'est parce qu'elle l'avait sans doute obligé à se mesurer à l'essentiel, à son essentiel. Après avoir repris mes esprits, j'ai pu interroger M. Badinter sur le procès Portet, son dernier chantier en tant qu'artisan de l'abolition de la peine de mort. Jean Portet, c'était cet homme, accusé du meurtre d'une bijoutière et d'un policier. Il a été condamné à mort en 1977 par la cour d'assises de la Gironde. Il a contesté cette décision. Il a été rejugé. Lors de son nouveau procès, en février 1979, ici même à Dijon, son nouvel avocat était Maître Badinter. Pour la troisième fois de cet hiver 78-79, Maître Badinter allait plaider pour écarter la peine de mort. Et comme pour les deux autres accusés, la tête de Jean Portet fut sauvée. La peine de réclusion criminelle à perpétuité était prononcée. Notre confrère disait de Portet qu'il avait tout pour déplaire. Il me confiait. Je n'aurais jamais accepté de défendre Portet s'il n'y avait pas eu la question de la peine de mort. Vous l'aurez compris, cette rencontre m'a marquée. Elle m'a forgée. Elle m'a appris qu'il n'y a pas de progrès sans confrontation. Pas de justice, sans doute, ni sans question qui bouscule. Et que la force d'une vie ne réside pas dans l'absence de heurts, mais dans la capacité à les transformer en éclats de vérité. Aujourd'hui, alors qu'il entre au Panthéon, je mesure combien cette leçon personnelle rejoint ce que nous célébrons collectivement, l'exigence, la justice et la dignité humaine. Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Robert Badinter renvoie tous les dossiers dans lesquels des hommes encouraient la peine de mort. Le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie, mais son combat a continué pour l'abolition universelle de la peine de mort.
Janvier 2016, Robert Badinter évoque le sort des détenus et l'état des prisons dans le documentaire « La parole est au garde des Sceaux » diffusé sur France 5.
Je me souviens très bien de cette venue en prison pour la première fois à l'âge de 23 ans. C'est au printemps 1951. J'avais de la prison une idée littéraire, et tout était si différent de ce que j'avais imaginé, non pas que ce fût une sorte de camp où régnait ostensiblement la violence, pas du tout. C'était, comment dire, un lieu extraordinairement bruyant. Ce fut ma première surprise. Les portes claquaient, cela résonnait beaucoup et tout le temps. Les nuits en prison ne sont pas du tout les nuits de silence qu'on imagine. Vous entendez des cris et cela continue de résonner de tous les côtés. Quand vous allez visiter un détenu, vous le rencontrez au parloir. C'est le côté jardin, pas le côté cour. Vous ne voyez pas sa cellule, c'est lui qui vient vous voir au parloir des avocats. En revanche, vous recevez les confidences des détenus et celles des gardiens pendant que vous attendez que le client arrive. J'aimais parler aux gardiens, savoir comment les choses se passaient, et j'avais par eux la révélation de problèmes considérables. J'ai donc ressenti cette angoisse. Jamais complètement effacée, et à chaque fois que je suis sortie de prison à l'issue d'une visite, quand j'étais avocat, il y avait ce sentiment de passer d'un monde à l'autre. C'est fort, c'est si fort. Oui, vous sortez et vous éprouvez la liberté.
Robert Badinter lutte toute sa vie contre la dégradation des conditions au milieu carcéral. On lui doit la loi du 10 juin 1983 qui crée la peine de travail d'intérêt général, une peine alternative à l'incarcération qui constitue en un travail que la personne condamnée doit effectuer sans rémunération au sein d'une structure agissant dans l'intérêt collectif.
Merci d'écouter Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson d'amour, peut-être, à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono. Et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi. À l'heure où les ombres fidèles sortant peu à peu de chez elles composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup. Ils lui ont dit d'un ton doux, c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui, il a pas pu. Il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé. Ces bourreaux, je ne suis président de rien. Moi, je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien. Et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Messieurs les assassins, commence, oui, mais la société recommence.
France, le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle. On lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand dais noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné.